On dit, oh, votre âme a choisi, n'est-ce pas, cette incarnation pour aller plus vite, pour telle et telle raison. Bien, d'accord, mais ça, c'est une phrase, donc, votre âme, c'est l'âme de votre âme qui a choisi ça. Elle est encore plus intéressée que vous, n'est-ce pas? Les généraux sont plus intéressés encore aux manœuvres des soldats que les soldats eux-mêmes. Il y a le but qui commande tout ça. C'est le but qui commande tout ça. Pourquoi est-ce que tout d'un coup vous avez eu 2 millions de jeunes Français qui sont morts à la guerre, la première guerre? Pourquoi sont-ils nés à ce moment-là? Vous avez-ils choisi? Vous ne pouvez pas dire que vous choisissez seulement votre moment de naissance. Vous ne choisissez pas seulement votre moment de naissance. Vous choisissez toutes les progressions de vos retards. Jusqu'à votre mort, vous faites le choix perpétuellement à ce taux-là. Or, est-ce que vous voyez bien qu'est-ce qui peut choisir? Le choix, c'est quand l'entendement est libre et informé. Or, jusqu'à l'astrologie, vous n'étiez pas du tout informé que certaines planètes allaient se permettre d'aller rétrograde quand vous comptiez sur elles d'aller de bien. Hein? Et tout d'un coup, les choses vous ont retiré sous le nez. Et vous allez dire, ah, mais moi j'ai choisi ça aussi. Vous ne l'avez pas choisi consciemment. À moins de penser qu'à un certain moment donné, avant votre naissance, vous aviez la pleine lucidité du dénouement, du déroulement de tout le panorama de vos existences, comme ça. Et puis vous dites, oui, il y a ça, ou bien il y a ça, ou bien il y a ça. Ben, je ne crois pas qu'on a fait. Je ne crois pas. Je veux bien croire que à certaines époques très antérieures, mais ça nous mène à loin, ça nous mène à dans du Saturne. Je veux bien croire, par exemple, que dans le monde animal, et surtout dans le monde des invertébrés, dans le monde moléculaire, je veux bien croire que là, il y a, si l'on veut, du choix. Au sens que ça peut avoir du choix. Mais je crois que lorsque l'être humain s'est donné la discipline de l'humanité, lorsqu'il s'est organisé comme un être humain, il a pris toutes les mesures de l'homme qui fait partie de l'espèce humaine, il est sous des lois spéciales qui sont les lois qui ont une vie. C'est comme si on accepte la discipline militaire ou la discipline du couvent. On méritait ça, on voulait ça, on était de l'atmosphère de ça, on prend ça et on est à l'heure, au rendez-vous, ça rate jamais. On a une discipline. L'humanité révèle qu'elle est vraiment sous une discipline. Et je crois donc, par conséquent, que la naissance est sous une discipline qui n'appartient pas à nous de formuler. Voilà ma position. Et c'est une des raisons pour laquelle, entre plusieurs, je ne me permets aucune espèce de critique de personne. Je ne condamne la vie de personne, et je ne dis pas quoi que ce soit sur personne, rien. Je dis, il fallait que ce fût comme ça pour cette personne, et il ne fallait pas seulement pour cette personne. Il le fallait pour toutes les personnes que cette personne devait contacter dans cette vie. Elle devait servir de leçon et de miroir aux vies qu'elle allait rencontrer, comme ces vies allaient lui servir à elle de cette même façon. Et par derrière ça, le monde auquel cette âme appartient a aussi des leçons à apprendre et des choses à donner. Et c'est un monde invisible, plus important que le visible, en lequel toutes ces choses prennent vraiment leur comptabilité finale. Voilà comme je le vois. Je ne vois pas depuis des années. Et je ne vois pas comment je m'en sortirais de cette position-là. Mais évidemment, les petits gens qui viennent vous consulter, on ne leur fait pas des théories. Moi, je ne leur fais pas des théories comme ça. Je connais deux ou trois astrologues en Amérique et même ici, qui commencent tout de suite d'analyse d'un thème en leur faisant une morale du tonnerre, n'est-ce pas? Vous êtes. Votre enfant, il est ceci et ça, mais vous comprenez, dans une vie précédente, c'était un sacripant. Il a fait toutes les noises, alors, n'est-ce pas? Et bien, il le paye dans cette vie, n'est-ce pas? Alors, comment faire l'analyse d'un thème comme ça?
Vous n'êtes pas dans la vie devant Dieu, c'est une chose à prendre. Oui. Vous avez peut-être un choix, et vous pensez l'avoir. Vous n'avez pas, vous n'avez pas. Alors vous êtes obligé d'agir, vous avez votre plein de voir, et vous avez une certaine responsabilité pour le choix que vous faites. Oui. Non, on ne peut peut-être pas, mais on ne peut pas le faire.
Mais voyez, oui, 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 d'accord, et eh bien, oui, oui. Mais c'est-à-dire que nous sommes ce que j'appellerais là, ce que j'appellerais là la liberté, c'est le droit d'être lucide quant à l'opération en question. On y participe lucidement. Car la vraie liberté, c'est le droit de connaître la loi. Oui. Comment, il y a autre chose qui entre en jeu. C'est qu'à des moments donnés, on peut avoir être engourdi parfois de boissons et prendre des décisions parce que le cerveau n'est pas clair. Et tout d'un coup, une idée arrive. Ah! Et le sens de la décision, si je n'arrive pas. Quand vous dites qu'il y a le choix entre deux choses, c'est que les deux idées s'avancent à vous sur des rallonges, je vous dis, hein, et voilà là. Et de temps en temps, il y a une idée qui disparaît, puis on a oublié qu'elle était là. Nous devons agir, alors je suis tout à fait d'accord. On doit toujours agir comme si on était totalement libre.
Moi, je suis persuadé que vous savez, il y a
des bandes, la vibration,
et
que vous savez que vous savez, les rayons, et tout ça. Oui, oui. Non, non. En tout cas, moi, écoutez, je vous donne ma petite formule à moi pour ce qu'elle vaut. J'agis comme si j'étais libre, en me disant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais pas regarder tous les aspects, parce que si je regardais tous les aspects, je finirais par rien faire. Et ensuite, la plupart du temps, je les embrouillerais et je ne les comprendrais pas. On n'est pas ultra lucide tout le temps. Il y a des jours où le meilleur astrologue n'y comprend plus rien du tout, à rien. Je vous demande, c'est comme ça. Oh, mais naturellement. Aussi, je me dis, je devrais faire telle chose. Ou j'ai envie de faire telle chose. Et puis, il n'y a pas le temps de décider longtemps à être diversifié. Alors je me dis, vas-y. Vas-y. Plutôt faire quelque chose que ne rien faire. Parce qu'en rien faisant, on n'apprend rien. C'est ça qu'on dit. Alors, puis je me dis ceci. Ou alors maintenant, je le sais. Si c'est dans l'homme, je le fais sans que rien ne m'y retienne. Si ça ne doit pas être, si c'est pas dans le plan de mon thème, il y a quelque chose qui va intercepter ça, et je ne le ferai pas. Je raterai l'autobus, l'ami qui pourrait me prendre en voiture ne pourra pas venir ce jour-là, n'est-ce pas? Et des machines pareilles à la fin des fins, n'est-ce pas? J'aurai une indigestion au moment où je m'y attends le moins, n'est-ce pas? Quelqu'un m'accrochera au téléphone et puis je raterai le train. Qu'est-ce que je fais? Il y a 50 choses. Et voilà. Et où il me dit, ah, c'est imbécile, non, mais c'est égoïste, et pourquoi? Je dirais, oui, je viens tout penser ça, mais pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas fait ce que je pense faire? Et que peut-être que c'était un mal relatif que je ne l'ai pas fait, mais enfin, c'est que si ça fait. Oh, écoutez, c'est très simple, j'ai une formule de très longtemps, et cette formule-là, on ne me l'a pas niée. Ce qui est possible est légitime. Si je peux vous tuer, c'est légitime. Comment, voilà, il se trouve que je ne peux pas vous tuer, donc c'est légitime. Voilà l'affaire. Mais si c'est possible que je puisse vous tuer, si c'est possible que je vous fasse une noix, n'est-ce pas? Alors elle était légitime, elle était dans votre thème. Autrement, je n'aurais pas pu la faire. Je n'aurais pas même peut-être plus envie de la faire. Il y a quelque chose qui va intercepter. Alors moi, je marche dans la journée courante, comme si j'étais totalement libre, en me disant tout ce qui est possible et légitime, c'était dans l'ordre, et tout ce qui est, j'ai quelque chose qui est totalement illégitime dans ma vie, qui est toute une série d'illégitimités dans ma vie, je ne dis pas d'illégalité, d'illégitimité, et quand je donnerai dedans sans le vouloir, il y a quelque chose qui m'arrête tout. Il était parfaitement légitime que Judas trahisse Jésus. C'était parfaitement légitime, et voilà pourquoi c'était possible. Il était parfaitement légitime que le Dieu du prix tue à ses parents. et de la façon atroce dans laquelle il l'a fait. Je n'ai pas dit, j'ai simplement dit légitime, je n'ai pas dit autre chose. Il y avait là une loi de compensation mystérieuse, il y a quelque chose qui nous dépasse. Il nous dépasse. Ça devait être. C'est arrivé. Voilà, ça ne veut pas dire que je me dis, oh bien, toi tu es malin, je dis alors c'est légitime, n'est-ce pas? Non, au contraire. Alors là, je me bats. Tout faire pour bousculer les femmes. Tout faire pour redresser. Alors aller à fond ne permet pas un seul instant le fatalisme de dire oh ben c'est malade, ben, c'est ton karma, n'est-ce pas, c'est ta sixième maison, on a fait d'abord, et puis on va laisser ça. On va laisser ça. Non, parce que nous sommes sur cette terre pour modifier nos âmes. Alors voilà. C'est bien le principe même de l'incarnation, c'est que c'est un enclume sur lequel on modifie nos cristaux. Ah bien, on les travaille, n'est-ce pas? Le bonhomme qui a travaillé ces planètes dans cette vie, et elles vont être autrement après. Nous n'avons pas des âmes, nous les sommes, mais ces âmes, on peut les modifier. Et c'est précisément comment? Et c'est la résistance que nous offre le monde extérieur qui nous permet l'opération. Mais oui. Mais oui, certainement. Mais écoutez, la chirurgie, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est divine. L'art dentaire et toutes les chirurgies du corps, mais qu'est-ce que c'est? Une modification des planètes, ça fait tout. Quand on pense au nombre de gens qui sont morts d'appendicite parce qu'on ne connaissait pas cette chose-là il y a 3 siècles, c'est ça. Ils sont morts d'appendicite sur un certain aspect, c'est évident. Eh bien, cet aspect aujourd'hui arrive. On enlève la phallus et puis les gens guérissent. Il y a quand même une science dans l'invisible comme dans le visible qui change l'étendue, la qualité de la planète.
Et ça doit
changer. Évidemment. L'air du Verseau va nous faire ça. Nous aurons dans l'air du Verseau les mêmes planètes, les mêmes relations. Mais ça va être quelque chose avec une rallonge que nous n'avons pas dans le passé. Bon, alors maintenant, c'était très important, je crois qu'on a mis ça au clair, comment? Oui. Non, c'est sûr que ça ne va pas. Ça, c'est faux. Ah, c'est parti faux. D'ailleurs, on va se contredire tout de suite. De toute façon, la personne qui veut tenir ce raisonnement-là est soutenue. Elle a un terme de facilité, alors soyez tranquille. Ce n'est qu'un raisonnement pour justifier sa facilité. Vraiment, c'est un terme archi-facile. Ah ben, naturellement. Il me semble, je ne sais pas ce que c'est, je me rappelle plus que peut-être la vie hors du tombeau de l'incarnation. Je me rappelle plus que c'est exactement, n'est-ce pas? Je n'en sais rien pour le moment. Mais je me rends bien compte que l'incarnation fait que nous avons demandé une résistance, que cette résistance nous donne ce qu'il faut pour précisément constamment développer nos lacunes. La développer, c'est-à-dire développer ces éléments, donc c'est pas l'air. C'est pas d'autre chose que le Jupiter, c'est le principe de croissance, c'est-à-dire si on peut mieux combiner le principe de forme et de croissance, et qu'on le voit devant nous, grâce à la lumière solaire, grâce aux formes des choses, le mental de l'homme peut mieux choisir et savoir ce qui se passe. Il ne tâtonne pas, il voit les choses comme ça. Et puis elles sont là, elles sont objectives, elles sont brutales devant lui. Elles sont brutalement devant lui. Et la nécessité de l'objectivité brutale est indispensable quand nous voyons les différentes formes de la folie humaine. La puissance de la subjectivité qui modifie les choses à son gré. Quand on voit le nombre de gens qui ne vous voient même pas en face d'eux, et qui, j'entends par là, qui ne vous voient même pas le calme que vous êtes, qui ne voient qu'eux-mêmes en projection à gauche et à droite, leurs rêves, leurs leurs emballements étaient, au fond, il n'y a rien pour justifier ça. C'est uniquement porté en eux-mêmes. On se rend compte de l'importance d'un monde objectif pour un, ceci, c'est un cahier, et puis c'est toujours l'histoire de Sancho Panza, n'est-ce pas, et de Don Quichotte. Sancho Panza, c'est l'incarnation. Et Don Quichotte, c'est le bonhomme qui n'est ni ici ni là. Il est un potentiel idéal, et Sancho Panza le force tout le temps à appliquer ça à quelque chose de concret. Voilà. Au moment où Sancho Panza a rejoint Don Quichotte, c'était le moment où Don Quichotte s'incarnait. Des choses comme ça. Alors, c'est un sujet pas fascinant hein, de prendre ça. C'est temps, je vais en commencer.
Je ne crois pas que tu sois dans les ordres de la vie. Je ne crois pas.
C'est-à-dire, écoutez, Stoffel, bien, vous avez raison d'amener cette question, certainement. Je suis d'accord avec vous dans une certaine mesure que le choix, le non-choix absolu, non, ça n'existe pas, qui est le choix absolu, autrement dit. On peut choisir que dans la vie, les formes les plus inférieures de la vie, que le choix soit total, non, certainement pas, mais qu'il y ait une latitude que l'homme n'a pas. L'homme s'est vraiment embrayé sur la voie étroite. Que la forme inférieure de la vie est la voie large, où il y a du jeu. Oui, aujourd'hui je le crois sincèrement. Mais l'homme est sur un rail, il est sur la voie étroite. Eh bien, la voie étroite, c'est la voie étroite, n'est-ce pas? Le jeu est très étroit, il est sur rail. Nous le sentons bien. Il y a quelque chose comme la conscience, pour ne dire pas autre chose. Il y a la forme de la forme de l'autre mental lui-même qui nous impose certaines disciplines. On ne veut pas faire violence à son mental. C'est tout ça. Les formes intérieures, vous voyez qu'elles sont toutes complètement déterminées dans tous les détails.
C'est-à-dire que les indéterminés, mais peut-être en descendant les journal, le cadre s'élargit.
Oui, c'est ça que j'entends. C'est ça que j'entends. Autrement dit, je ne crois pas que l'animal inférieur, ou alors, nous allons loin maintenant, je voulais faire plus tard préparer une leçon, deux leçons, sommeil, sur le principe saturnien de la croix, en montrant la différence entre l'animal et l'homme. Je ne crois pas que le thème de l'infusoire, par exemple, de l'amibe, par exemple, je ne crois pas, puis même de beaucoup d'autres espèces, en tout cas, restons dans le monde invertébré. Je suis même persuadé que c'est vrai dans certains vertébrés. Mais laissons ça, seulement les invertébrés. Je ne crois pas qu'on peut dire, tous vos cheveux sont comptés, que les choses leur arrivent aux heures nommées de leur vie, comme dans l'homme. Pour nous, les choses viennent à point nommé, il n'y a pas à dire. Pour nous, nous sommes vraiment le doigt de Dieu et sur nous. Ça, nous faisons partie d'une discipline, d'une organisation militaire, vraiment, c'est le cas de dire, où tout passe. Mais la troupe invertébrée, non.
Non.
Écoutez.
Non, là, on peut le considérer ainsi, c'est la classe, logiquement, l'ordre, ou l'espèce qui.
Oui. Oui. D'où l'idée de l'âme groupe, n'est-ce pas?
Voilà.
D'où l'idée de l'âme groupe.
Ce qui est vrai dans d'autres cœurs,
certainement dans tout.
Et même peut-être dans les vertébrés inférieurs également.
Obéir à l'instinct. On a bien mis le mot obéir à l'instinct, donc il a une soumission. Généralement, quand on parle de l'homme qui obéit à l'instinct, on voit en lui un insoumis. C'est ça curieux, n'est-ce pas? On le voit surtout insoumis. Mais l'animal qui obéit à l'instinct, c'est un soumis. Vous voyez pas que l'animal n'obéit pas à l'instinct, vous serions nus. Vous serions nus. Comment? Oui. C'est un sujet énorme. C'est un sujet énorme et pour lequel nous sommes malheureusement très peu documentés. Nous pressentons sa grandeur, c'est déjà le commencement de la documentation. Savoir ce ministère y entrer, faut y entrer par la connaissance plus intime de nous-mêmes. C'est là. J'en parlerai certainement, puisque vous avez amené ça comme ça, je me ferai un devoir d'en parler alors lorsque je ferai, vous parlerai de l'expérience que j'ai faite avec la quadrature de Saturne dans mon thème. La quadrature de Saturne dans mon thème est une chose très difficile, à sa façon très dure, mais elle m'a apporté jusqu'à présent, en tout cas, deux expériences intellectuelles positives, deux découvertes qui en forme sont les mêmes, la même. J'ai découvert que Saturne, la quadrature de Saturne, vous fait pousser les dents. En vrai, c'est ça. Elle vous fait pousser les dents. Or, les dents, c'est les points de maison qui deviennent plus longues et plus solides et plus fortes. Au lieu d'avoir des dents de lait, on a des dents bien calquées, bien en fort calqué. On mord dedans. Ah, ce sont des canines, n'est-ce pas? Alors, vraiment, des molaires et des canines, mais c'est quelque chose de bien, ça. Oui, je vous dirais que j'ai littéralement senti l'opération à un moment donné, absolument éperlué moi-même, j'ai senti tout d'un coup cette rallonge d'une maison qui alors s'avançait, mais alors cette fois-ci aussi faite d'un matériel qui n'était pas plastique du tout. Et puis, qui, comme un promontoire jeté dans la mer, a le don, plus elle s'avance et plus elle tient ferme, de briser la vague. Briser la vague et la couper en deux, de manière à ce que la côte en soit moins nette. La côte, c'est moi. La côte, c'est moi. La maison, c'est une porte. Les 12 maisons sont 12 promontoires. Eh bien, non, c'est une forteresse, n'est-ce pas? Ce sont des arches de cathédrale pour soutenir les panneaux, mais c'est une forteresse. Mettez-vous un fort et vous vous dites, tiens, il y a la citadelle centrale, il y a l'ennemi, avant d'arriver à la citadelle centrale, il faudra qu'il passe entre ceci et ça, et puis ça, et alors les feux croisés sur lui, n'est-ce pas, avant qu'il arrive là, il n'existera plus. Alors plus la prolonge est longue, plus la défense est forte, moins l'ennemi a de chance de passer. C'est ça que j'ai compris. La quadrature de Saturne vous fait pousser des dents.
Quadrature de Saturne.
Vous avez fait ça. Oh, ça vient des connus. Oui, 21 millions. Hein. Ah, oui, c'est exact. Vous avez marqué ça, vous avez pu cette. Oh, chamon de la poussière. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai.
Une expérience que je vous avais ainsi pour vous. C'est un monsieur qui a maintenant 35 ans. Il me donne sa date de naissance et je lui dis, ça ne va pas, vous êtes né au moins une heure avant. On me dit, c'est bien possible, c'est ma mère qui m'a donné cette heure-là. Alors, je lui dis, renseignez-vous, je crois que c'est l'hiver. Alors, voilà ce qui s'est passé. À un moment donné, la maman était prête à coucher, la papa me dit, bon, maintenant c'est prêt. J'ai versé la poche de l'eau et de la mire tout de suite. Et la mère a été prise d'un trac épouvantable. Non, ne me touchez pas, je ne veux pas qu'on me touche, etc. Elle avait très mal, mais elle ne voulait pas qu'on la touche. Ça durait 13 minutes. Il a donc accouché une heure après. Enfin, une heure, ça revient. Une heure après. Le conseil est exactement ce qu'il faut qu'il trouve, puisque c'est un médecin qui a 35 ans, sa vie est faite et par conséquent pour qu'il ait été, c'est au moment où il aurait dû accoucher. Et où la mère n'a pas voulu. Mais elle n'a rien changé au destin. Ça, c'était la fille dans un tel ou pas fait tel, si vous voulez. Et je n'avais pas assez changé, parce que ce qu'il y a pour vous dire, c'est souvent les médecins vous disent, je peux avancer ou retarder un accouchement.
Oui,
est-ce que ça va changer le sel que doit avoir la vie, c'est-à-dire la vie que doit avoir la vie, par rapport justement à l'enseignement de la haut de l'enfant ou à l'être, que le sel va avoir fait, que le sel va avoir fait.
Ah, il y a le thème de conception, ça c'est indéniable, il y a... Ah, d'accord. Ah oui, il est... Oh, on peut... Ouais, écoutez, moi j'ai quand même vu deux thèmes de conception en Amérique, c'était quand même bien envoyé, ça faisait bien des explications. Par un spécialiste qui était très fort dans la partie. Mais ça dépend, il est calculé, à partir du thème, mais le thème de conception est calculé, ça c'est le thème de naissance. Hein.
Non,
c'est le mouvement en arrière, là, à partir du moment de la naissance, position de la Lune et tout le bazar. Non, ça c'est ça. Mais quand même, c'est là un des mystères, d'accord. Mais bon, j'avoue que tout se passe comme si ce qu'on appelle le premier écrit, c'est le vrai moment de... D'où le thème vraiment comment. C'est le moment de la vie indépendante de l'être où il fait son premier acte autonome, où il prend son premier risque personnel. Il est évident quand on y pense que la vie de gestation d'un être dans la protection de la matrice maternelle. C'est déjà tellement prodigieux que ça se passe comme ça, dans le début des choses. C'est tellement énorme, cet être qui dépend du corps d'un autre être et du mental d'un autre être. C'est vraiment ahurissant, c'est fabuleux quand on pense un peu à ce que ça représente. Ça, c'est tellement fabuleux. Et puis, peut-être il est là. En tout cas, je ne peux vous dire qu'une chose, moi. Sur ce sujet du thème de conception pour lequel je n'ai aucune compétence pratique, je ne l'ai jamais vécu moi-même, mais je l'ai vu vivre par quatre ou cinq fois avec une extrêmement bonne astrologue américaine qui était spécialisée là-dedans. C'était sa passion. Je peux dire qu'une chose, j'ai demandé, alors ça il faut le dire, je l'ai demandé à l'invisible. À l'invisible, j'ai un professeur d'astronomie. Il a été 25 ans à Princeton, qui est mort en 1908. Il m'a fait le grand honneur de me suivre régulièrement à partir de l'été 44, précisément lorsque Saturne est entré dans le cancer. Et alors, à lui, je lui ai dit, mais voyons, parlant justement d'interception, je lui ai dit, voyons, un Esquimau, une mère Esquimau, donnera naissance, viendra en avion, traverser l'équateur et sort. C'est sur l'équateur qu'elle donne naissance à son gosse. Va-t-il avoir un thème équatorial? Voilà ma question. Aura-t-il un thème équatorial? Or, se comportera-t-il comme un équatorial? La réponse a été très simple. Cela dépend si son thème de conception est aussi équatorial. Donc, il n'est pas. S'il a été conçu dans le cercle arctique, il ne se comportera pas comme un équatorial, alors qu'il y aura un thème équatorial. Voilà le cas extrême. Il ne se comportera pas comme un équatorial. Et pourtant, il ne se comportera pas comme un Esquimau qui aurait ça. Non plus. Car il disposera de certaines choses que les Esquimaux, à leur naissance, n'ont pas. Mais il y aura là un fond qui sera le thème de conception, qui aura, lui, les quatre ou les six interceptions du thème. Alors ça, vous comprenez, ce sont des recherches que nous devons laisser aux astrologues de la génération à venir. On n'a pas le temps de s'en occuper, on n'a pas les moyens pour avoir. Ce n'est pas une époque de ça. Sous le berceau, on en trouvera de fameuses. Il y a des recherches passionnantes à faire là-dedans, c'est la connaissance en profondeur du mystère de l'homme. Mais il faut que nous sachions tout savoir, nous limiter. Et faire bien ce que l'on fait dans un champ limité. Je regrette tellement de voir, j'ai vu en Amérique comme ici, les astrologues se perdent, c'est leur thème sans doute, ils prennent un sujet, ils n'y vont jamais jusqu'au bout, ils n'y vont pas avec des matériaux suffisants, ils ne les aiguisent pas assez, et au bout d'un certain temps, c'est intéressant. Et évidemment, les spéculations sont intéressantes. Ils sautent dans une autre chose, et on a un tas de choses imprécises sur toute espèce de sujet dans un vocabulaire lui-même imprécis, et alors c'est la pagaie. Comment? Comment? Mais justement, c'est partout, ça. Il y a une certaine marge de la famille astrologique qui n'est pas capable de faire autre chose que ça. De tourner en marge de la chose avec toutes espèces de petits sujets à côté. Bien sûr que c'est fascinant. Et alors, attention à ceux qui se hâtent d'arriver à des conclusions. Oh, il faut que ce soit comme ça. Il y a des gens aussi, il faut le dire, qui sont tellement angoissés quand ils n'ont pas des certitudes qu'ils se forgent une. Et alors, ils n'en bougent pas mordicus. C'est une question de sécurité essentielle. Moi, je me rappelle un temps moi-même où le besoin de certitude était tellement énorme, et dans le domaine de l'astrologie aussi, quand je suis venu à l'astrologie, que je m'arrêtais assez vite à une solution. C'est comme ça. Ah, quel retour. Enfin, j'ai trouvé. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah oui, après un certain temps, il a fallu que j'ai chance. C'était pas comme ça. Et alors l'humiliation et puis l'inquiétude, l'angoisse est venue. Et à ce moment-là, je découvre que je ne faisais que forger mes outils pour une pénétration plus grande. Et après, je me suis dit, mais pourquoi cette excitation, cette hâte de trouver la solution? Pourquoi cette hâte? D'abord, c'est naturel qu'on veut trouver les solutions. Mais pourquoi? Quel élément d'insécurité se joignait à ça? Il est vrai que très souvent dans ma vie, quand tout d'un coup une idée à laquelle je croyais disparaissait, c'était comme si j'étais suspendu sur la ligne. Vite, 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 une autre idée, hein, une passerelle pour me retenir en tombant. Vite, vite, vite. Une angoisse, je la reconnais encore, cette angoisse. Je la reconnais encore, c'est ce qui me fait poursuivre la recherche de l'astrologie comme un fou. Quelqu'un m'a appelé le Fram. Le Fram, vous savez, c'est le navire qui avait conduit Nansen au pôle Nord. Et je lui dis, pour l'amour de Dieu, pourquoi m'appelez-vous le Fram? Je dis, parce que c'est votre obstination, votre entêtement. Je n'ai jamais vu quelqu'un poursuivre une idée et un sujet avec une persistance pareille. Évidemment. Et au fin fond de moi, cette persistance est due à une angoisse, en fait. Il faut que je sache où je crève. Depuis quelque temps, je me dis bien, je ne crèverai pas, même si je ne sais pas. Comment?
La sagesse, en fait.
Oui. Ben, je crois qu'il faut nous arrêter. Comment?
Est-ce que vous avez une opinion sur la cadence et l'incarnation?
Oui, je n'ai pas une opinion, j'ai quelques idées là-dessus. Oui, mais naturellement. Naturellement. Eh bien, personnellement, je ne sais. Alors maintenant, je m'exprime qu'une opinion, et ce n'est pas une certitude. Je suis presque certain que les réincarnations ne se font pas dans la même génération. Pas parmi les races blanches, et pas parmi. Plus les gens sont cultivés, moins ils se réincarnent. Voilà la théorie générale. Plus il y a de la culture, plus il y a d'éducation, plus il y a de finesse, plus l'incarnation est une obligation terne. Ce n'est pas un avantage en soi, l'incarnation. Naturellement, les gens qui se dépêchent, qui disent « Ah, il est mort, là, oui, on a de la gauche, on s'attarde à réincarnation », c'est au fond l'idée qu'entre deux, on est dans les limbes, on dort, on est dans le frigidaire, la vie est une vie de nouilles, quoi, quelque chose. C'est pas quoi, n'est-ce pas? Enfin, on ne vit pas, n'est-ce pas? Au contraire, il paraît qu'on vit beaucoup plus. C'est une tombe. Alors, il ne faut pas aller se précipiter à rechercher la réincarnation, rien pour faire plaisir à sa grand-mère ou à sa petite-fille, ou etc. Non, ça c'est le sentiment bien joué. Non, il faut être à froid. Alors, je suis persuadé personnellement que les gens, plus ils vont évoluer, plus l'incarnation, si elle doit se refaire, va se faire dans un très grand cycle. Très grand cycle. Très grand cycle. Qui peut prendre des centaines et des centaines d'années. Parce qu'il y a un thème que j'ai appelé le thème ordinal, auquel j'ai fait allusion certainement l'année dernière, le thème ordinal, les 12 maisons de l'individu. Et il faut les passer à des vitesses différentes, les unes des autres, elles ne sont pas du tout égales, comme nos thèmes ne sont pas égaux, ils ont aussi leurs interceptions, ils ont tout ça, ils vont plus ou moins vite, mais il y a les 12 maisons de l'invisible, sur le thème ordinal, c'est-à-dire le thème du top, du nombre dans le temps, et que les réincarnations ne sont pas obligatoires toujours, elles le sont certainement jusqu'à ce qu'on ait épuisé les leçons de l'incarnation. De ce que l'incarnation peut apporter. Et non pas seulement les leçons, mais ce que l'on doit apporter aux autres. Si une certaine personne naît et que cette personne ne peut connaître une certaine chose que par vous, il vous faudra bien vous laisser aussi. Il y a là une conjugaison obligatoire, un synchronisme. Ça. Je crois que il faut compter de nouveau par 12. Je ne m'aurais pas donné le chiffre du tout. Mais enfin, si vous voulez absolument avoir un chiffre, je pense qu'on peut dire au minimum qu'il y a 144, 12 fois 12, réincarnations du même individu. Pour le minimum. Pour le minimum, 12 fois 12. 12 fois le cercle. Ah oui, tout le bazar, n'est-ce pas? Tout le bazar. Comment?
Cela implique que la Terre finisse à un moment donné, alors.
Ah non, 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 non. Oh non. Oh non, parce que le monde invisible est vivant et habité, et fonctionnant, d'êtres qui ont été incarnés et qui ne reviendront jamais. C'est fini pour eux. Ils n'ont plus rien à apprendre. Ils n'ont plus de rendez-vous non plus avec des terriens. Ils ont des rendez-vous dans leur plan, dans leur thème, mais ils ne les ont plus dans le plan corporel. Ils disposent d'une instrumentation d'expression et d'impression autre que la nôtre, définitivement. Oh non, non du tout. Oh, non, 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 non du tout. La réincarnation est une nécessité. Ah, écoutez, c'est un sujet magnifique que vous avez là. Parce qu'on doit le prendre, on peut le prendre dans le sens. Il faut prendre ce que signifie la résistance. Moi, je le prends sous l'angle de la résistance que représente ce que nous appelons que notre corps nous apporte. Le corps nous met en face d'un objet qui est de la pierre. La pierre, eh bien, la pierre et notre corps, ben, c'est un dialogue, là. Le dialogue avec le visible. Et ce dialogue avec le visible, c'est un dialogue sensoriel. Définitivement sensoriel que notre corps a l'équation. Il y a là des avantages, une leçon de choses extraordinairement précise, n'est-ce pas, unique au monde dans son genre, et tant que c'est-à-dire on s'est identifié à son objet. L'objet domine le sujet. Or, dans l'homme, le sujet domine l'objet ou établit avec lui. Par le principe d'équilibre et de proportion de la croix, établit avec lui une équation parfaite. Je ne veux pas insister là-dessus, ça nous mène moins encore une fois. Mais ceci, je vous le dis, parce que ici, nous avons le sujet, que nous avons là le sujet, et que devant ceci va venir un autre sujet qui va venir la contre. Et que précisément, le jeu de toutes ces proportions par rapport à ceci va soutenir l'affirmation que ceci a de lui-même face à l'autre. Face à l'autre. Il va dire, ceci va dire, oui, oui, je te vois bien, tu es là, oui, tu es là en face de moi, mais je ne suis pas toi parce que je suis ceci et ça. Et c'est ma verticale qui va me dire à mon horizontale, je suis ancré ici et je ne suis pas ancré sur ce qui se trouve ici. Toi là, tu as aussi ton âme, tu as aussi ton monde intérieur. Va t'ancrer dessus, pas t'ancrer sur la mienne. Autrement dit, ceci représente une forteresse une jetée qui défend l'intérieur de vous-même contre tout envahissement absorbant et destructif. D'où alors vous voyez que vous avez 12 portraits avec le fort central ici, 12 promontoires, 12 avancées de forteresse qui vous défendent constamment contre l'identification avec le monde extérieur, qui vous permettent un rapport, un engagement avec lui. Ah oui, un engagement par la bouche, par l'œil. Oui, 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 vous pouvez l'assimiler, mais vous déterminez la dose que vous en prenez. Parce que les gens deviennent fous quand la douleur vraiment amène la folie. C'est tout simplement que la masse de conscience qui est entrée dans cette bouche a littéralement inondé l'estomac avant même que l'assimilation ait pu avoir lieu. Il y a eu là une arrivée de l'invasion jusqu'au centre, et quand le centre est touché par l'invasion, c'est la folie. C'est-à-dire le centre, là, cette chose mystérieuse qui est la conscience. Le plan conscient, et le plan conscient lui-même, complètement démonté. Alors quand le plan conscient est démonté de cette façon-là, c'est la folie. Nous entrons dans un espace de chaos inconscient, sans ordre, sans tout, sans politesse. Compris, mademoiselle Asselin? Vous pensez que ça allait être quelque chose de ce genre, ce cours d'astrologie? Non, pas? Et que pensez-vous que ça allait être? Vous avez dit, vous êtes très vivant, je sais que j'étais votre thème les derniers jours que j'ai apparu en décembre. Et que pensez-vous que c'était? Vous deviez avoir une idée un petit peu d'après la façon dont on a analysé ce thème. J'adore le cours normal. J'adore. Mais qu'est-ce que vous appelez le cours normal? Parce que vous avez vu les manuels, les amis. Bon. On entrera dans la bêtise maintenant, très graduellement, vous savez. On n'en est pas loin, bien sûr, maintenant. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Ceci marque la limite du sujet au coin des maisons, des croix, des bras de croix, qui s'appelle en astrologie des maisons. Dans la demeure de mon père, il y a plusieurs maisons. Dans le domaine de mon père, de mon être, il y a plusieurs maisons. Car l'être et le père sont un. Bien souvent, quand les gens disent « Dieu le veut », « Dieu veut que je fasse telle et telle chose », »,« Dieu veut que je lui obéisse », ce qui est vraiment l'énergie en jeu en eux, c'est celle de leur âme à eux. Car là, il y a une confusion des titres et des noms. Mon âme veut quelque chose. Puisque je connais de Dieu, c'est ce qui est vu dans mon âme. C'est là que Dieu inscrit sa volonté dans le plan même de l'autonomie de l'inconscient personnel. Et là, on trouve cette structure qui dit « Ah, c'est comme ça !» Et voilà pourquoi on dira authentiquement en astrologie, vous ferez toujours ce que vous voulez, même quand vous ne le voulez pas. Au fond, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez la souffrance. Vous avez voulu cette souffrance comme vous avez voulu cette joie. Vous avez voulu ce calvaire. Votre âme l'a voulu. Ah, pas votre conscience, bien sûr que non. Au sens de la croix, votre âme l'a voulu. Vous avez appelé ça la volonté de Dieu. Parce que Dieu, c'est l'âme de votre âme. Et votre âme s'aligne instinctivement sur une volonté hiérarchiquement et successivement de plus en plus profonde. Alors, ici s'arrête le sujet, et là commence son objet. de la distinction que vous allez faire ici de votre objet, la distinction que vous allez faire ici de votre objet, va être possible par la solidité de l'axe vertical, par la solidité de tous les autres bras de la croix, qui vont vous maintenir en équilibre par rapport à ceci qui va vous solliciter tout d'un coup et vous tirer. Vous avez un mari qui fait de vous 6 œufs, ah ben, c'est parce qu'ici, c'est un cartilage, ce n'est pas un os. C'est un cartilage, il vous tire par le nez, littéralement, il vous prend par le nez, il vous prend le cartilage du nez. Et il n'y a pas moyen de résister. Et c'est parce qu'elle vous dit, mais non, je ne veux pas, je me retiens. Vous faites les gestes inverses. Mais oui, mais vous ne pouvez pas les faire si vous n'avez pas de la place derrière vous pour basculer votre corps et faire contrepoids. Quand vous vous levez une table ou levez un objet lourd, vous écartez vos jambes d'une certaine façon pour le faire. Mais si on vous interdisait tout écart de vos jambes et on disait, lève ça, vous tomberiez immédiatement avec votre poids. Tout ceci représente les moyens dont vous disposez, et les espaces dont vous disposez, et les temps dont vous disposez, car tout ceci est espace-temps, espace-temps, tout le temps, pour précisément vous tenir toujours en équilibre face au monde extérieur. Voilà toutes les choses que l'on trouve dans la croix. Tout ça est parti de ce mystère de la croix. Alors, distribution des énergies maintenant. J'étais venu, je crois, à la fin du compte, de la fin de forme. Première des énergies, celle que j'ai appelée la dernière fois sensible, ou simplement la conscience générale de tout. La conscience dans son sens générique et général, sensible, sensation. Sentiment, pas affection, pas attache, simplement sentiment, avec l'origine du mot dans le sentiment. La première chose que le soi a, expérimente, c'est le sentiment, c'est la sensation qu'il est. Ensuite, vient d'autres choses s'ajouter à sa sensation d'être. Il y aura l'impulsion d'agir, l'impulsion de s'attacher, l'impulsion qui correspond à l'idée d'aimer, l'impulsion de rayonner, l'impulsion de monter, l'impulsion de descendre, l'impulsion de se contracter, de se dilater. Tout ça viendra à la suite, mais toujours fondamentalement senti. C'est la note dominante, sentie. Et cette note dominante de la conscience elle-même, dans son essence, la conscience elle-même, alors, nous avons un terme astrologique pour ça, c'est la Lune. La Lune commande toujours, par sa position, le pôle de la sensibilité. Et ici, dans les 12 bras de croix, elle commande le 4e bras, c'est son monde à elle. C'est le monde de la Lune. Et alors là, quand on dit Lune en astrologie, on dit émotivité, émotion, émouvoir, non pas affecter, ce n'est pas un affect au sens psychologique moderne du terme, c'est simplement, c'est un affect, oui c'est vrai, c'est qui vous affecte quoi. Mais sans que nécessairement ça vous déplaise ou vous plaise, ça vous touche, voilà tout, ça vous touche, c'est le premier contact. Le premier contact avec le monde extérieur se fera toujours par la Lune de votre thème que vous le ferez, toujours. Parce qu'elle représente vraiment le zodiaque de toutes les formes de la conscience de vous-même que vous avez. En elle, sur elle, dans les rails de la Lune, va passer tout le monde. Tout le kaléidoscope de toutes les couleurs que représentent les différentes énergies de votre nature. La puissance de propagation, c'est donc ça. La puissance de conservation de vous-même, du don de vous-même, la puissance du vouloir rayonner, la puissance au contraire de vous retirer, la peur, l'audace, tout ça. est partie de vous-même. Tout ça est parti du monde mouvant autour de vous-même. Et tout ça représente des principes de votre axe vertical qui se distribue sur l'horizontal. Car sentir les sensations et tous ces synonymes-là. Car, dites-vous bien que ce que je vous ai dit de la verticale par rapport à l'horizontale va être valide tout le long. Vous aurez maintenant une verticale pour une horizontale, une verticale pour une horizontale, une verticale pour une horizontale. Et maintenant, vous allez renverser l'ordre. Et ceci va être une horizontale pour cette verticale. Ceci pris verticalement, l'horizontale pris verticalement, ça va avoir un autre sens. Toujours, vous allez avoir c'est le féminin et le masculin s'alternant tout le temps de part en part. L'énergie qui est le dynamisme que l'astrologie interprète et affirme existe, c'est une énergie qui vient précisément par les verticales de toutes les croix, de tous les bras de croix. C'est une énergie qui vient de la conscience collective. Qu'on le prenne en vertical, qu'on le prenne sur cet axe-là, sur cet axe-là. La maison de Dieu, c'est celle-ci. Et l'énergie, à proprement dit, du Saint-Esprit, qu'on appellerait le Saint-Esprit dans le sens alors de la sagesse divine, alors c'est une énergie qui vient ici de plus haut, qui est sur une verticale de la croix. La source de la sagesse suprême est tout là-haut, et elle descend à l'homme sur cette blanche verticale. Ce sont les fameux chevaux du prophète Élie de l'Ancien Testament. Ce sont les fameux chevaux de l'Apocalypse. C'est la maison du Sagittaire. Et l'énergie sur l'axe vertical, c'est ça. Et alors, on va la vivre sur l'axe horizontal, par exemple, en étant ou ici un serviteur de Dieu, un serviteur de l'homme en sixième maison, ou un serviteur de Dieu dans la deuxième maison, qui sera le moine, la nonne et la personne emprisonnée par vocation religieuse. Pour servir sa verticalité, qui étant son horizontalité, sa verticalité est là, elle va servir sa verticale, car la vie horizontale de l'homme sert sa vie verticale, elle est là dans ce but, et ici, l'horizontale ici va servir la verticale, qui est la verticale proprement divine. C'est clair, là, vous remerciez. Il y a beaucoup à prendre, hein. Vous n'avez pas la tête comme une citrouille, non? Pas encore. C'est clair, mademoiselle Perriane? Non, arrêtez-moi, n'est-ce pas? Ah oui, eh bien, M. Stoffel, très généreusement, nous inscrit tout ça dans une bande. Je sais qu'il en a déjà une heure au moins. C'est la troisième demi-heure maintenant. Ben, vous comprenez, ce sera là. Ce sera là. Alors, vous pourrez le réentendre la prochaine fois, si vous voulez. Bon, première distribution. Alors, c'est le mouvant par excellence, c'est la Lune. C'est le mouvant par excellence. Tout, la Lune représente ici, dans le thème astrologique, le cercle qui est autour de la croix. Voilà, c'est ce cercle. Parce que la Lune, le sentir, représente, est ambivalente. Et d'une part, elle limite la somme de choses que nous pouvons vivre, enfin, dont nous pouvons avoir conscience. Et d'autre part, elle nous donne la somme de choses dont nous pouvons avoir conscience, n'est-ce pas? Elle vous dit, ah, ben, je ne peux pas être conscient de plus que ça, alors je m'arrête là. Je ne vais pas me mettre ici. Je ne vais pas me gonfler comme ça. Je ne vais pas me gonfler comme ça. Et te donner tout d'un coup beaucoup plus que tu n'en peux prendre. N'est-ce pas? Or, justement, dans un thème, lorsque vous avez un Jupiter carré la Lune, vous avez des nuits qui fait justement un écart comme ça. il vous en apporte plus que vous n'en pouvez prendre. Hein? C'est Jupiter carré à lune, par exemple. C'est qu'alors. Voilà, il en prend plus qu'il n'en faut. Alors j'ai fait cette bourse sûre, n'est-ce pas? Autrement dit, quand on devrait prendre des fers avec une cuillère à thé, nous on la prend avec une louche. Non seulement une cuillère à soupe, mais une louche. Mais écoutez, il y a des gens, vous savez très bien aujourd'hui, qu'on ne mange plus, on avale. Donc, je ne sers même plus de sa langue, ni de ses dents, on met ça dans la bouche et où ça passe, n'est-ce pas? En anglais, on dit gulping, n'est-ce pas? Avaler. Eh bien, le gulping, n'est-ce pas? C'est très moderne, ça. C'est toujours dû à une lune qui est, justement, qui ne sait pas se limiter. Qui vous en donne toujours plus que vous n'en pouvez vraiment assimiler. Non? Évidemment. Alors là, les répercussions se font sentir partout, dans l'ensemble de l'économie de l'être. Car toute l'économie de l'être, de toute la totalité psychique et physique de l'homme, est là. Et du moment que j'ai dit que ceci est une verticale autant qu'une horizontale, vous avez saisi tout de suite que le thème est une sphère et non pas un cercle. C'est une sphère, le thème. La sphère, la voilà au-dessus de vos têtes. C'est cette boule noire. C'est ça. Vous êtes ça, vous êtes toute cette boule. Mais naturellement, vous n'êtes pas ronde. Vous êtes cabossé. Il y a des creux et des dents à cette histoire-là. Il y a des arêtes. Il y a des vallées et des montagnes dans nos thèmes, à chaque fois de nuit. Si c'était tout rond partout, ben, on ne serait pas sur la Terre, il n'y aurait plus de raison d'être là. Et parce que la Terre, c'est toujours une. La croissance, c'est toujours de passer d'un équilibre à un déséquilibre, à un rééquilibre, et par conséquent par des creux et des bosses. Mais les maisons astrologiques, c'est-à-dire ces secteurs, vont représenter tantôt. Car quelquefois, vous aurez, au lieu que ce mouvement se fait dans ce sens, vous auriez que ce fait qui se fait dans celui-là. Et ça va comme ça, plutôt que dans le sens contraire. Alors, on a une maison défoncée et on a reçu un coup sur la bouche plutôt que de la nourriture. Comment? Ah non, évidemment, évidemment. Dans l'un, on n'a pas assez, on n'a pas assez de quoi manger, dans l'autre, on a trop. Et voilà. Alors, autour, la première, le mouvement, c'est le principe du mouvement, c'est avant tout la Lune qui nous tourne autour de la Terre. Tenez-vous bien, n'est-ce pas? Elle est satellite de la Terre, elle fait partie de la Terre, elle est du monde de la Terre, elle est inséparable de la Terre, les deux sont un. Or la Terre ici représentera le Soleil qui est axial autour duquel la Lune tournera. On l'appelle un Soleil ce qui est axial. Ce ne sera pas le vrai Soleil qu'on appelle le Soleil, mais ce sera par rapport à la Lune la chose dont la Lune s'occupe, lui tourne autour. Et alors, elle lui tourne autour, voilà pourquoi elle représente le principe maternel qui toujours tourne autour de son enfant. Pour la Lune, la Terre est toujours son enfant. Et la puissance de la Lune est plus grande que la puissance de la Terre, mais par l'exercice de sa puissance, l'exercice de la puissance maternelle, organique, l'enfant grandit pour un jour égaler sa mère. C'est clair, ça. Il n'y a pas de magie là-dedans, c'est l'expérience directe de la vie, ça. Hein? Et bien, normalement. Voilà pourquoi l'évolution non seulement de l'homme, mais des races et des générations. Or, voilà l'élément maternel par excellence, c'est la Lune. Ce mouvement perpétuel qui constamment donne et limite à la fois, protège et donne à son enfant qui est ici au centre, avec ses 12 bouches qu'elle nourrit tout le temps. À quoi elle apporte, ce qu'elle trouve. Et puis, ce qu'elle trouve, elle l'apporte en proportion de ce que lui veut. Et ce que l'on veut va être indiqué par les attributs de lui, qui sont les planètes alors. Qui sont des attributs de son être. Les planètes ne sont pas autre chose que des attributs de l'être. Comme vouloir est un attribut de l'être, comme penser est un attribut de l'être, comme agir est un attribut de l'être, comme enthousiasme est un attribut de l'être, eh bien, voilà, les planètes, c'est ça. C'est pas autre chose que ça. Mais celle qui nous entoure partout et toujours, et qui va vite autour de nous, mon Dieu, elle travaille bien, en 28 jours, elle a fait le tour de tous les berceaux, de tous ces berceaux de petits êtres, du petit soleil que nous sommes. Oh, elle a tourné autour de son enfant, autour de sa crèche tout le temps. Oh, c'est une garde malade qui voit tout le temps ce cycle en temps, puis ensuite ce cycle, le coussin, la couverture, le drap, le matelas, etc. Que tout y soit. Elle tourne autour tout le temps. C'est la lune. Puissance formidable, sur laquelle il faut toujours compter dans toutes les situations, sans laquelle rien n'arrive. Il faut la permission de la maman pour que l'enfant soit touché. Alors, l'enfant qui va être touché, c'est ce qu'on appelle le soi. Le petit soi. Le soi qui commence maintenant à s'incarner dans le champ de l'espace et de l'existence présente, et ça va être ici le soleil. Alors celui-là, il est tout petit, c'est un enfant. Et il va grandir maintenant tout le temps. C'est le lion, en astrologie. C'est le lion, c'est le petit enfant, qui va maintenant être le fils de sa mère, et qui va grandir. Alors c'est le soleil. Alors lui, il va grandir sur lui-même. Lui, il ne va pas changer. Il ne va pas se déplacer, lui. Lui, il restera toujours lui-même. Il est le soi. Mais il est le soi en train d'être né dans un nouveau plan de conscience, dans un nouveau cycle de conscience. La conscience va lui tourner autour. Et par ce fait même, il y a quelque chose en lui qui va monter avec la grandeur de la conscience qui lui est imposée. Et alors, c'est donc l'axe central de soi-même par rapport au mouvant qui est la lune. Et puis le rapport entre les deux, l'intelligence, va venir s'inscrire immédiatement après. Je crois ici la planète Mercure dont voici le symbole. J'analyserai une autre fois le pourquoi les planètes sont représentées par des dessins différents. Il y a un plan d'action, il y a un plan de conscience qui s'appelle l'action, agir. Avez-vous réfléchi au mystère de l'action? Qu'est-ce que ça veut dire, agir? Pour agir, ne faut-il pas sortir de son assiette? Hein? Agir, c'est sortir de son cercle. Tourner en rond dans son cercle, eh bien, on n'agit pas. On tourne en rond et rien ne se passe. Mais dès que vous sortez de votre cercle, donc de votre assiette, il y a action. La sortie du cercle, c'est l'action. C'est la première extension de la conscience. Mars, représenté par la force dite martienne, c'est la force qui étend la conscience. Et là, l'étend, l'amène à un objet donné, veut lier cet objet à la conscience. Et va la tirer sur cet objet. Voilà pourquoi dans les thèmes Mars carré la Lune, Mars conjoint la Lune, je vous réponds que la conscience sait s'étendre. Elle sait s'étendre à son objet avec vigueur. Parce que Mars, c'est un attribut de l'être. Ce n'est pas un attribut de la Lune. Les planètes, les éléments de la conscience, les éléments de la personne, les éléments de l'être, n'appartiennent pas à la Lune, car elle est elle-même élément de l'être. Comme l'être est un élément d'elle, si vous voulez. Mais toutes les forces vitales appartiennent à l'être, et non pas à l'être, au soi, à ce qui est éternel et non pas à ce qui est mouvant. Et permettre la croissance de ce qui est cet être. Alors, il y a une puissance qui s'appelle l'action, l'acte de naître. L'acte de naître, de pousser ce premier cri d'affirmation, ce premier mouvement des moyens dont on dispose de s'articuler, ce premier mouvement, c'est Mars. On entre dans une inconnue avec Mars. Parce qu'on s'étend dans ce qu'on ne connaît pas encore. On veut y aller, on ne sait pas pourquoi, mais on veut y aller. Et on y va horizontalement. On va directement de plan à plan. C'est ce qu'on appelle Mars en astrologie. C'est-à-dire l'instinct d'accélération de son mouvement personnel. C'est l'accélération du mouvement Mars. On sort de son inertie. Et dès qu'on accélère l'inertie, c'est-à-dire qu'on sort d'inertie, on a Mars. La façon dont vous partez en automobile, la façon dont vous, de votre immobile, la façon dont vous elle part votre auto, indique très souvent la qualité de votre Mars. N'est pas noté la vôtre, madame. D'accord. Vous remarquerez que les gens qui sont très sous les signes de la Lune, c'est-à-dire très sensibles naturellement, et par contre, ils ne font jamais, quand ils dirigent leur auto, ils ne font jamais brusquement les coins, ils les font en rond. Ils arrondissent les angles, et ils ne partent jamais violemment, et ils s'arrêtent jamais violemment à moins qu'ils le faillent. C'est ça. Mais ils ne partent jamais violemment, parce que ça n'est jamais nécessaire pour eux. Ils ménagent leur voiture comme ils ménagent un enfant. Et ils ne veulent pas brusquer les courbes, ils les prennent aussi ronds qu'ils le peuvent, même dans une ligne de circulation intense. Par contre, ceux qui sont sous l'empire de le principe dominant en eux, la tonalité dominante, l'action pour l'action, l'action est une religion, alors hardi, moteur, pas. Il faut que ça existe. Hein. La brusquerie est une preuve qu'on vit et que c'est même un devoir d'être brusque. Hein. Il faut rompre l'inertie vite, intensément. Pas graduellement, mais intensément. Autrement, ils sentent que rien ne se passe. Pour eux, il faut que quelque chose se passe. Or, pour que quelque chose se passe, il faut agir. Et quand il faut agir, il faut ce qu'on appelle la force martienne de la main. S'étendre. Affirmer cette horizontale de la croix à tout prix. Alors ça, c'est l'acte premier de la naissance, c'est le premier mouvement, on accepte la vie. Ah, on l'accepte. Ah, oui, je suis là, et je suis un peu là. En avant, première maison astrologique, non. L'aurore, le lever, pas plutôt que vous êtes réveillé. D'abord, vous avez la sensation, tiens. Je suis réveillé. Tiens, je vois la lumière, ou je vois la chambre, ou je me sens dans mon lit en tout cas, si j'ai de pleine nuit.